Louis. Vous faisiez quoi le 4 novembre 2020 à 16h16? Selon le moment où vous écoutez cet épisode, c'était peut-être hier ou il y a 2 mois, et c'est bien possible que vous ne vous en rappeliez pas. Ce que je peux vous en dire, moi, c'est que si vous êtes une femme, c'est à partir de ce moment-là, estimé bien sûr, que pour l'année 2020, vous avez commencé à travailler gratuitement. Le collectif Les Glorieuses, qui se bat contre les inégalités hommes-femmes et milite pour l'égalité salariale, a appelé encore cette année à s'arrêter de travailler à partir de cette date pour marquer ces écarts de salaire. Dans cet épisode, Louise Emerlet s'interroge sur l'un des mécanismes par lequel cette inégalité se concrétise, celui de la négociation salariale. Elle a assisté à un atelier organisé par Gloria, un cabinet dédié à l'égalité hommes-femmes en entreprise, où les femmes apprennent à négocier. Elle y a croisé les participantes, évidemment, et Guillaume Damota, DRH chez L'Oréal, chargé de l'animer. Elle a aussi interviewé Noémie Lemaine, psychologue et co-Thomas Breda, chercheur au CNRS et spécialiste des inégalités de genre sur le marché du travail.
Ce que j'ai appris en faisant cet épisode, c'est que ma difficulté à négocier, elle vient en partie de ma socialisation en tant que femme. Ce qui est problématique, mais pas insurmontable. Alors il y a quelques mois, j'ai assisté à un atelier organisé par Gloria, un cabinet dédié à l'égalité hommes-femmes en entreprise. L'objet de l'atelier, savoir négocier son salaire.
Donc normalement, vous repartirez de là avec des tips. On a déjà eu des tas de messages de « super, je suis reparti de là, j'ai eu ma négo et j'espère que vous serez à même de nous envoyer un bientôt parce que vous aurez mené une négo brillamment ». Donc le chemin, c'est de se donner comment on négocie, ce qu'on peut négocier et comment moi, je peux être à l'aise pour le faire. C'est ça qu'on va essayer de travailler ensemble.
La personne que vous venez d'entendre, c'est Guillaume Damota qui a mené cet atelier. Il est directeur des ressources humaines chez L'Oréal. Pour mieux comprendre l'écart salarial entre les femmes et les hommes et en quoi la négociation a un rôle à jouer là-dedans, j'ai rencontré Thomas Breda, chercheur au CNRS à l'École d'économie de Paris. Un de ses thèmes de prédilection, ce sont les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Ce que Thomas Breda m'a expliqué, c'est que selon les données du gouvernement, l'écart salarial entre les femmes et les hommes est d'environ 25%, tout poste confondu.
Alors il y a environ 25% d'écart, donc l'écart de revenus annuels entre les femmes et les hommes, c'est de l'ordre de 25%. Une chercheuse bien connue qui parle du quart en moins pour les femmes. Et ça s'explique déjà en bonne partie par des différences de temps de travail. Les femmes travaillant moins que les hommes, étant plus souvent à temps partiel. Donc ça va expliquer une bonne moitié ou environ une moitié de cet écart. Donc une fois qu'on a tenu compte des différences de temps de travail, si on prend du salaire horaire, l'écart va plus se situer autour de 15%.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les négociations salariales créent un tel écart entre les salaires des hommes et les salaires des femmes? Qu'est-ce qu'il se passe autour de la table des négociations pour en arriver là? D'abord, les femmes négocient en moyenne moins que les hommes. C'est ce qu'expliquait Guillaume Damota en introduction de son atelier. 2/3 des femmes, 66% exactement, n'ont pas négocié le salaire de leur premier emploi. C'est 25 points de plus que les hommes, selon un sondage d'Opinionway publié en 2019. Et ce n'est pas seulement pour le premier poste. Les femmes négocient moins tout au long de leur carrière. Au fil de leur parcours professionnel, de leur promotion, de leur changement de poste, l'écart avec les hommes continue de se creuser. Un quart des femmes déclarent tout simplement ne jamais négocier en direct avec leur recruteur, selon une étude Région Job qui date de 2016. Et elles sont 40% à finir par accepter le salaire qu'on leur propose, alors que les hommes, eux, auront davantage tendance à stopper le processus de recrutement si le salaire qu'on leur propose ne leur convient pas. En fait, les femmes ont, en moyenne, des attentes salariales plus basses que les hommes. Et ça, ça les pénalise. Alors pourquoi les femmes ont-elles des attentes salariales plus faibles? Et pourquoi est-ce qu'elles négocient moins? Je suis allée rendre visite à Laurence Desjoigny.
J'ai été sidérée quand j'ai entendu une femme dirigeante qui me disait, quand je commençais à travailler sur la question des femmes, me dire il faut absolument travailler sur cette question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et elle me disait, quand dans un entretien de recrutement, je reçois un homme, il négocie toujours son salaire. Quand je reçois une femme, elle n'en parle pas. Et le jour où elle a eu une promotion, j'étais là quand ses copines l'ont félicitée, elles lui ont dit « Alors, t'as demandé une augmentation ?» Elle a dit « Ah non, ça n'est pas dans mes valeurs. » Bon, bah, elle pouvait aller donner à l'abbé Pierre, hein.
Pour elle, ce sont les différenciations de genre que nous intégrons dès notre plus jeune âge qui sont à blâmer.
Les garçons, dans ce qu'ils ont appris dans leur groupe de garçons dans l'enfance, ils ont appris des relations de pouvoir. Et à se situer par rapport à un chef. Et c'est le pouvoir qui est désirable. Et le pouvoir, c'est comme l'argent, voilà. Et les femmes, au contraire, elles ont compris, elles ont appris à être beaucoup plus modestes, à être plus en retrait. Elles ont appris à avoir une attitude modeste et à ne pas se mettre en avant. Et à ne pas être agressive.
On pourrait penser que le seul problème, c'est qu'on n'apprend pas aux jeunes filles à mettre en avant leurs qualités. Mais il y a un autre enjeu, c'est qu'elles ne voient pas leurs qualités. Noémie Lemen, qui est psychologue et coach en carrière, me l'explique dans d'autres termes. Ce qu'elle pointe, c'est que les hommes ont en moyenne une meilleure estime d'eux-mêmes que les femmes. Et ça, c'est lié à la différence entre locus de contrôle interne et externe.
Avoir un locus interne, c'est considérer que si j'ai un locus interne, je considère que je contrôle pas mal de choses de ma vie. Donc ça veut dire que j'ai une certaine puissance. Ça veut dire que je peux me sortir de l'embarras, je peux agir pour moi. J'ai un pouvoir sur les choses, j'ai un certain contrôle sur les choses. Si j'ai un locus externe, ça va être un peu l'inverse. C'est-à-dire, je vais être dans une question de déterminisme. Les choses sont fixées d'avance. Il n'y a rien à faire. C'est le destin. C'est les autres qui ont le pouvoir sur ma vie et sur moi. Donc, mon pouvoir à moi et ma puissance à moi, elle est limitée.
Dès les années 1990, des chercheurs américains publient dans la revue Psychology and Health une étude qui synthétise les données de toutes les études qui s'étaient penchées sur les différences dans le locus de contrôle des hommes et des femmes. Et ils trouvent qu'en moyenne, les femmes ont tendance à avoir un locus de contrôle davantage externe que les hommes. Et le coupable est tout désigné, nos sociétés patriarcales.
Généralement, dans les groupes, si on en revient à la psychologie sociale et au fait qu'il existe des groupes qui vont être plus dominés socialement et d'autres qui vont être plus dominants, le fait de faire partir d'un groupe qui est considéré comme dominé, et si je valide le fait que ce groupe est dominé pour des bonnes raisons, de certaine manière, je suis sous l'emprise du groupe des dominants, donc je vais dépendre d'eux. C'est-à-dire que j'ai moins de contrôle sur moi puisque eux ont un contrôle sur moi. D'une certaine manière, c'est ça. C'est associé à une estime de moi un peu faiblarde, en quelque sorte. Hein. D'autres études ont démontré que les femmes ont des estimes de soi inférieures à celles des hommes, même quand elles ont des niveaux équivalents de diplômes, voire même avec des niveaux de diplômes un peu supérieurs.
En faisant mes recherches, je suis tombée sur une étude qui est parue en 2010 dans Journal of Personality and Social Psychology. Dans des expérimentations en laboratoire, des chercheurs américains se sont rendus compte que les femmes ont des meilleurs résultats en négociation quand elles négocient pour les autres, plutôt que quand elles négocient pour elles-mêmes. Ça m'a soufflé de lire ça. Parce que je me souviens très bien, il y a quelque temps, je me préparais à une négociation de salaire avec l'une de mes collègues. Et je me souviens très précisément de ce moment où je me suis dit que négocier pour moi, finalement, c'était un peu négocier pour elle aussi. Comme on avait le même poste, négocier pour valoriser mon travail, c'était aussi valoriser le sien. Et je ne vous explique pas le soulagement qui m'a envahi. Ça m'a semblé beaucoup plus facile, d'un coup. Mais pourquoi est-ce que c'est tellement plus confortable, mentalement, émotionnellement, de négocier pour les autres plutôt que pour moi ?
C'est-à-dire que c'est mieux pour une femme de penser aux autres, comme ça, de penser aux soins qu'elle doit donner à ses enfants, à sa famille, à son mari, d'être une bonne épouse, une bonne mère. Voilà. Et si j'accepte ça ou je me rends pas compte, mais je suis conditionnée par ces syndromes à mon insu. Et que je négocie pour les autres, je suis en congruence avec mes valeurs. Il n'y a pas de conflit en interne. Il y a rien qui me sabote. Je négocie pour les autres. Donc je suis bien en accord et en congruence avec mes schémas et mes valeurs qui sont que c'est mal d'être égoïste et c'est bien de se dévouer aux autres. Et donc je suis une vraie femme féminine avec des qualités féminines.
Négocier, c'est prendre des risques. Entrer en compétition pour la répartition des richesses dans l'entreprise. Et ce que Thomas Breda m'explique, c'est que les femmes performent aussi moins bien quand elles sont en compétition avec des hommes versus quand elles sont en compétition avec des femmes.
Pour les femmes, on voit que le fait de se retrouver en compétition avec un homme baisse davantage leur performance que de se retrouver en compétition avec une femme. Et ça a été montré dans plein de cas. Ça a été mesuré dans des courses d'athlétisme, par exemple, chez des écoliers et des écolières, où on montre que pour courir en 100 mètres, eh ben quand une écolière se retrouve à courir à côté d'un écolier, elle va moins vite que quand elle se retrouve à courir à côté d'une écolière. Des normes sociales et culturelles vont façonner les comportements, notamment les comportements en groupe et potentiellement donc dans des univers professionnels, et qui peuvent amener à des inégalités de genre et une forme de domination des femmes par les hommes.
Pour les femmes, demander une augmentation de salaire, c'est aussi transgresser un schéma archaïque. La femme donne la vie, l'homme la gagne. Un schéma dans lequel le salaire des femmes, dans un foyer, est seulement un salaire d'appoint.
Le coût des rémunérations des femmes a une histoire. Les femmes ont toujours travaillé, pendant très longtemps gratuitement, et que notamment au travers du travail domestique ou d'aider leurs époux quand ils étaient commerçants, etc., ou à la ferme quand ils étaient fermiers. Et que le travail des femmes à l'extérieur pour avoir une rémunération était perçu comme un salaire d'appoint et quelque chose qui pouvait être vécu comme humiliant pour le mari qui avait besoin que sa femme participe aux frais du ménage.
Dans ses travaux, l'économiste Rachel Silvera se concentre elle aussi sur l'histoire des rémunérations pour expliquer la persistance des inégalités salariales. Elle rappelle que jusqu'au 19e siècle, les femmes pouvaient gagner jusqu'à 70% de moins que des hommes pour exactement le même travail. Les conventions collectives prévoyaient souvent deux grilles de salaire, pour les femmes et pour les hommes, pour des postes identiques. La logique ? La rémunération était fondée sur les besoins des individus. Et il était communément admis que les hommes devaient pourvoir aux besoins de toute leur famille, alors que les femmes, elles, étaient en principe entretenues par leur mari. Leur salaire était donc un simple salaire d'appoint.
Donc on part de cette structure-là, c'est-à-dire qu'on part d'une histoire qui a vu la représentation du salaire féminin, elle est passée par ces étapes-là. Leur travail, c'est de participer à la maison, et c'est un don, et c'est le fruit de la négation, et c'est gratuit, au fait que elles vont y aller travailler parce que les hommes ne sont pas suffisants. Et c'est parce que les hommes n'ont pas été suffisants à un moment donné même que ça a libéré les femmes, parce que c'est parce qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant pour faire le boulot. C'est l'histoire de la Première Guerre mondiale où il y a eu quand les hommes sont partis et quand beaucoup ne sont pas revenus parce qu'ils ont été tués à la guerre, où il y avait pénurie de manœuvre, et comme elles avaient fait le boulot pendant la guerre, finalement il y a beaucoup d'entre elles ont pu y rester. Et c'est ça qui a fait que les femmes ont accédé au fait de pouvoir finalement vivre de leur travail et d'avoir une rémunération. Et c'est ça qui a fait que progressivement, mais pas encore dans toutes les têtes, le salaire des femmes n'est plus vraiment un salaire d'appoint. Et quand je dis pas encore dans toutes les têtes, moi je sais que j'ai entendu des contemporains dire... il y a une petite dizaine d'années, peut-être dans ces eaux-là, dire encore, en parlant d'une femme dans l'entreprise, c'est scandaleux que cette femme-là travaille vu la situation de son mari. C'est-à-dire que, vu le niveau de poste élevé de son mari, c'est scandaleux qu'elle soit là puisqu'elle prend une place, un salaire d'un autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on met dans une dynamique d'imposture, en fait.
Malgré les revendications des institutrices, des infirmières, des dames des postes, il existe toujours deux grilles de salaire après la Seconde Guerre mondiale. C'est seulement la loi du 11 février 1950 qui grave le principe du salaire égal pour un travail égal dans les conventions collectives. Le principe du salaire d'appoint est enfin aboli, mais les représentations qui y sont associées persistent.
Dans la tête d'un certain nombre de managers, elles sont la femme d'eux. Voilà. Ou quand elles sont célibataires, c'est pour leur gadget, quoi, qu'elles ont besoin d'argent. Enfin, c'est ahurissant, quoi. Hein? Une femme, son manager lui a dit « Eh ben, tu feras moins les soldes » en lui refusant une augmentation de salaire. Elle en est restée, mais sans voix, quoi. Ça donne envie de pleurer d'entendre des choses pareilles. Hein. Donc, moi, je leur donne un mantra que je leur propose de se répéter avant d'entrer dans le bureau de leur manager. C'est « Comme mon manager, je travaille pour gagner ma vie et pas mon argent de poche ». Je veux dire, ça se transmet de génération en génération, quel que soit le discours officiel, ça se transmet de façon inconsciente. La femme donne la vie et l'homme la gagne. Et c'est ce qui fait aussi, X études le montrent maintenant que les femmes se mettent à demander, qu'elles obtiennent moins facilement que les hommes, parce que l'homme reste le chef de famille.
Les femmes ne négocient pas. Parce qu'elles sont des femmes, et quand elles le font, elles sont pénalisées parce qu'elles sont des femmes. En fait, des études l'ont prouvé, que les femmes sont perçues négativement quand elles négocient leur salaire, en tout cas, plus négativement que leurs collègues masculins. Hannah Riley Bowles, la directrice du programme Femmes et politique publique à Harvard, l'a montré dans une série d'expériences. Elle a intitulé son papier de recherche « Sometimes it does hurt to ask ». Ou en français, parfois, ça fait du tort de demander. Dans ces expériences, les managers hommes préfèrent travailler avec des femmes qui acceptent le salaire qu'on leur propose sans broncher, plutôt qu'avec des femmes qui négocient. Même si les femmes qui négocient leur semblent tout aussi compétentes. Donc si les femmes osent moins négocier, c'est peut-être parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas forcément intérêt à le faire. On a envie d'imaginer que les recruteurs qui pénalisent des femmes quand elles négocient, qui leur disent qu'elles n'ont qu'à moins faire les soldes, ce sont des hommes d'une autre génération, bien installés dans leur machisme. Mais à la fin de l'atelier de négociation salariale Gloria, il devait être 23h, le lieu avait fermé, je suis restée discuter sur le trottoir avec des participantes, notamment avec une DRH. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle aussi, elle perçoit les femmes et les hommes qui passent dans son bureau pour négocier leur salaire différemment.
Je pense qu'il y a également un biais d'appréciation, c'est-à-dire il n'y a pas seulement en quelque sorte la peur effectivement de s'exprimer, de négocier, etc. Mais il y a aussi effectivement... C'est-à-dire la personne qui va recevoir une négociation va aussi avoir un biais d'appréciation. Et effectivement, c'est horrible parce que moi, pour le coup, je considère que je suis quelqu'un véritablement... qui est engagée pour faire progresser la gente féminine. Mais effectivement, un homme qui va négocier son salaire, négocier ses conditions de travail, je vais considérer que c'est tout à fait normal. Et parfois, quand une nana a la même attitude qu'un mec, je vais me dire « Oh là là, mais dis donc, elle est féroce celle-là et tout ». Et c'est horrible parce que c'est tellement profondément ancré en nous qu'on n'arrive pas à en sortir.
Quand j'ai entendu ça, mes neurones n'ont fait qu'un tour. Et j'ai écarquillé les yeux vraiment très, très grands. Je me suis dit comment exactement est-ce qu'on va s'en sortir? Si quand les femmes négocient, elles sont pénalisées par leurs interlocuteurs, même quand leur DRH est féministe et participe à des ateliers sur la question. Je me suis dit vraiment, on ne va jamais s'en sortir. Bon, et puis après, je me suis reprise et j'ai fait cet épisode. J'ai compris que ce n'était pas propre seulement à ma personnalité, le fait d'avoir du mal à négocier mon salaire. J'ai compris que c'était, socialement et historiquement, profondément ancré. Et prendre conscience des stéréotypes qui pèsent sur les femmes en négociation, qu'on a internalisés souvent, c'est aussi commencer à les défaire. Et puis, il y a aussi des solutions concrètes pour améliorer l'équité des négociations salariales. La transparence et la clarté. Une étude de 2014 a montré que quand des candidats étaient informés qu'ils pouvaient négocier leur salaire, alors les femmes et les hommes négocient de manière similaire. Mais quand ce n'est pas précisé clairement, que les règles du jeu sont ambiguës, les femmes négocient moins. Et de manière générale, lorsque les femmes connaissent les rémunérations de leurs collègues, elles alignent leurs demandes en fonction. Vous vous souvenez de l'expérience sur les attentes salariales des femmes dont on a parlé au début ?
Dans un État américain, cette plateforme de recrutement a décidé de pré-remplir la case qui consiste à donner ses attentes salariales pour les salariés, les candidats. Donc quand les candidats candidatent, jusqu'alors, ils devaient dire « moi, je voudrais 50 000 dollars par an, 40 000 dollars, je ne sais pas ». Et là, on a pré-rempli la case sur le site en mettant le salaire moyen ou le salaire médian dans l'État pour les gens qui ont le même niveau de diplôme. Et du coup, ça donnait une sorte de norme, quoi, de quelles attentes pouvaient être attendues, entre guillemets. On voit que quand ils se sont mis à faire ça dans cet État, ça a supprimé les différences d'attente entre les candidates et les candidats. Donc c'est aussi au passage intéressant en termes de politique publique, parce que si on rend plus transparent les salaires, ce à quoi les gens peuvent prétendre et tout, ça fait qu'on va moins avoir que les femmes vont avoir des attentes plus faibles. Donc c'est assez intéressant à cet égard. Dès lors qu'on a mis en place ce système dans cet État, il n'y a plus de différence d'attente entre les femmes et les hommes candidats, et il n'y a plus non plus, du côté des recruteurs, de différence de propositions de salaire d'embauche. Donc on a supprimé les écarts de salaire à l'embauche en homogénéisant les attentes des candidats hommes et femmes. Et ils ont aussi vérifié que, comme les femmes sont venues avoir des attentes un peu plus fortes, quand on a mis on a pré-rempli la case avec un salaire, là, on pourrait se dire peut-être qu'elles n'ont pas eu des propositions d'embauche plus faibles, mais peut-être qu'elles ont eu moins de contacts. On les a moins souvent contactées pour les recruter. On n'a pas observé ça non plus. Donc, il n'y a pas eu de discrimination à l'embauche. Elles ont eu autant de contacts, autant de propositions d'emploi et avec les mêmes salaires. Donc c'est quelque chose qui confirme que les attentes salariales différenciées, qui sont reliées à des propensions à négocier quand même aussi différentes des femmes et des hommes, c'est quelque chose qui peut expliquer les différences de salaire, de trajectoire salariale. Ouais.
Ce n'est pas pour rien que Les Glorieuses et d'autres appellent, pour résoudre les inégalités salariales, à la transparence des salaires en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, seulement 37% des Français connaissent le salaire de leurs collègues, selon un sondage Glassdoor qui a été publié en 2015. Le think tank Terra Nova s'est penché sur la question, et ce qu'il propose, c'est la généralisation des grilles de salaire pour les grandes entreprises. Et pour les plus petites, la mise en place d'un outil public de comparaison salariale, un observatoire des salaires. On pourrait aller sur Internet et voir le niveau de rémunération moyen qui correspond aux caractéristiques de son poste. L'APEC a déjà mis en ligne un outil dans ce sens, mais il porte seulement sur les postes de cadre. Terra Nova propose qu'il soit généralisé. L'égalité salariale a aussi un intérêt pour les entreprises. Si l'argument éthique n'était pas suffisant, il y a aussi un argument économique. Fonctionner dans un système inégalitaire peut être coûteux pour ces entreprises qui pensent faire des économies en ne rémunérant pas autant leurs salariés femmes. Parce que les femmes qui ne sont pas rémunérées à leur juste valeur, elles risquent de se démotiver et d'aller voir ailleurs. Ce coût de la démotivation pour les entreprises, c'est d'abord une baisse de la productivité, mais aussi l'obligation de devoir recruter, former de nouvelles personnes. Finalement, on a tous et toutes intérêt à vivre dans une société plus égalitaire, à déconstruire tous nos biais lorsqu'on se fait face pour négocier, qu'on soit employeur ou employé.